Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, allez, on est ensemble pendant 2 heures encore avec Marc Madio, avec Pascal Duprat, Fred Weiss et Jérôme Pinault. On dort pas beaucoup en ce moment hein, à cause de la NBA, la Coupe du Monde et les 24 heures du Mans où on va aller tout de suite, Marc, pour ton plus grand plaisir, trouver Clément Brossard qui suit cette 94e édition partie depuis 16h hier. Il a veillé toute la nuit. Salut Clément.
Salut Georges, salut tout le monde, salut GG. En effet, on dort pas beaucoup, ça je te le confirme.
Bah oui, mais bon, enfin, c'est encore plus dur de conduire. Hein. Bon, tu nous racontes un petit peu comment s'est passée la nuit, notamment pour les concurrents.
Oui, alors on est sur un safety car actuellement parce qu'il y a un gros crash d'une Mercedes dans la catégorie LMGT3. Mais avant de parler de la course, un petit mot sur l'ambiance parce que c'est toujours sublime ici, plus de 300 000 spectateurs. On a vécu une belle nuit avec pour la lancer, vous l'entendrez derrière moi, Magic System qui a donné un grand concert avant le DJ Moziman. On a eu le droit
encore une fois,
un spectacle de drone. Bah, Le Mans c'est une course, mais c'est toute la ville qui est en fête évidemment. Spectacle de drone et feu d'artifice magistral comme d'habitude à minuit, parce que légende des 24 heures, elle s'écrit aussi dans ces moments-là. Le point sur la course, Georges, avec la catégorie Rennes hypercar. Et attention, parce que là, c'est hallucinant. On avait dit que cette 94e édition allait être très serrée. Et ben, on n'a pas menti, puisque c'est la BMW numéro 20 qui est en tête après 291 tours. C'est la leader du championnat cette saison en endurance, avec 13 secondes d'avance sur la Cadillac numéro 12 et 20 secondes d'avance sur la Toyota numéro 7.
Après 19 heures de course pratiquement.
Après plus de 18 heures de course. c'est absolument fou. Et si on pousse un petit peu plus, la quatrième, c'est la Toyota numéro 8 de Sébastien Buemi qui a remporté 4 fois les 24 heures du Mans avec 24 secondes. Donc c'est absolument dingue. Les grosses déceptions, on les a vécues ce matin. À 8 heures, le local de l'étape, Sébastien Bourdais, dévasté après l'abandon de sa Cadillac numéro 38 dans les bras de son père dans les stands. C'était une image très très forte. C'était sa 19e participation. Il a fini 3 fois deuxième, mais il n'a jamais de victoire pour le Sartois encore sur ce circuit. Et pour tout vous dire, on devait être ce matin avec un pilote de Genesis, mais la nouvelle écurie en endurance a pris un coup sur la tête. Il y a une grosseur, abandon de ses deux voitures, la 17 pour un problème de suspension, la 19 aussi j'ai l'impression est dans le dur. La tenante du titre, la Ferrari 83, est toujours dans le coup, 6e à 3 minutes 22 de la tête seulement. Les 6 premières voitures se tiennent en un tour. Le suspense est encore en là. Dingue. Et un petit mot pour finir d'une autre catégorie, les LMP2, les voitures d'écurie privée. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est la Deken Team qui est devant et parce que c'est un équipage mixte avec Dorian Pain actuellement piste aux manettes. Elle rêve d'être la première femme depuis 1976 à piloter en Formule 1. Elle est en recherche actuellement de partenaires. Elle n'a cédé que 15 tours depuis le départ hier à 16h. Donc je vous rappelle quand même l'élément important, c'est le rappel du classement provisoire et du podium provisoire de ces hypercars. BMW devant Cadillac, Toyota et Toyota, si on rajoute la quatrième, 4 voitures en l'espace de 25 secondes. Il reste 5h50 de course.
C'est dingue, Marc.
Ouais, est-ce qu'on a des projections sur le nombre de ravitaillements par voiture? Parce que ça peut faire la différence, in fine, sur le coup de 16h. Est-ce qu'il y a des voitures en décalage ou pas? Ou est-ce que tout le monde est dans la même fenêtre?
Non, absolument pas, parce qu'il y a une stratégie décalée de la part de Toyota très très
depuis
tôt.
Depuis le départ.
Depuis le départ, exactement. Ce qui fait qu'ils gèrent leur course à l'inverse d'autres écuries, notamment comme les Cadillac. Alpine a essayé de se copier un petit peu sur le modèle de Toyota, mais ils sont quasiment les seuls, en tout cas sur les 6 premières voitures, à adopter cette stratégie décalée.
Et ça nous projette où vers s'il n'y a pas d'incident, ça nous met.
S'il n'y a pas d'incident, je pense que la Toyota numéro 8 et la Toyota numéro 7 ont une petite longueur d'avance.
Okay, donc on va suivre ça. Vous avez vu, Marc, il est à fond sur la 24
heures. Ils viennent de changer la roue avant gauche sur la 7. Ils ont un peu galéré. J'espère qu'ils ont bien serré les boulons.
Ça, c'est vrai.
Surtout avec 25 secondes d'écart en cas de voiture. Oui, les passages au stand vont être très importants.
Quelle épreuve incroyable, évidemment.
Tu nous as pas parlé des 24 heures du premier grand moment de légende, puisque le départ des 24 heures a été donné par Marc Cavendish.
Bien sûr, c'est ça. Ouais, évidemment.
Après avoir connu LeBron James, Zinedine Zidane, Raphaël Nadal, Roger Federer l'année dernière.
Donc ça descend en notoriété.
C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux.
T'imagines. Non, mais ça va être Jérôme Pinault l'année prochaine.
J'ai été sublime avec le drapeau français qui a été récupéré par
les cavaliers. J'ai donné les départs de 24 heures.
T'as donné les départs des 24 heures du Mans?
Oui, 24 heures du Mans, vélo.
Ah, ah oui. Alors là, tout de suite, on allait vous voyer.
Il y a un peu moins de monde.
Non, c'est sympa, très sympa.
Bon, reste évidemment, Clément, tu nous préviens si jamais il y a un gros événement sur les 24 heures du Mans, évidemment. Alors, les grandes gueules du sport, je vous rappelle, vous pouvez retrouver la première heure en podcast. On va parler de Wembanyama qui ne sera pas champion NBA dans un instant. En fin d'émission, inscrivez-vous au jeu du sport. Hein. Aujourd'hui, il y a un séjour dans un des 400 campings Gomer à gagner. Pour le remporter, appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, sur le ring du cyclisme, on est à 3 semaines de la grande boucle et Paul Sextas nous a fait peur hier sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
RMC, le ring des GG.
Grosse chute de Paul Sextas. On a les premières photos. Il est allé carrément dans le décor. Paul Sextas, il a été attendu par deux de ses coéquipiers, mais ils auraient 3 minutes 20 de retard sur le peloton. Ça va être très, très dur de revenir. Et surtout, on ne sait pas trop dans quel état il est reparti. Il est bien remonté sur son vélo, mais probablement très amoché.
Je suis surtout inquiet pour le Tour. Alors là, quand on tombe sur les routes du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même une sacrée épine dans le pied qu'on se met parce que faut d'abord, dans un premier temps, récupérer de la chute et mentalement et physiquement. Alors qu'on devrait être dans une phase un peu d'euphorie à l'approche de son premier tour.
Pour l'instant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Pas d'abandon pour Paul Sextas qui est en train de remonter avec Jérôme. Forcément, on se met un peu arrivé. On se dit, et si il arrivait à récupérer le peloton? Et si, dans l'ascension hors catégorie du Grand Colombier, il arrivait à remporter l'étape? Tout est possible avec Paul Sextas. Ça y est, Paul Sextas est dans le peloton. Il est même en tête de ce peloton avec les favoris de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'était assez drôle l'image. Paul Sextas qui remonte tout le peloton avec tous les coureurs qui tournent la tête sur leur gauche en mode, ah ça y est, la fusée est rentrée. Il est bien là.
Franchement, c'est un des plus grands numéros que j'ai vu.
Il grimace, Paul Sextas, elles sont longues ces dernières secondes pour le Français. Voilà, il vient de franchir la ligne. Paul Sextas, environ 1 minute 20 de retard sur Isaac Del Toro. Et il est parvenu à franchir cette ligne avec pas trop de retard au classement général. C'est tout simplement exceptionnel.
Il a chuté loin de l'arrivée, vous l'avez écouté, c'était sur RMC hier, il a compté jusqu'à 4 minutes de retard, mais a réussi à, grâce à ses coéquipiers, à revenir dans le peloton avant de perdre la roue des favoris dans la dernière ascension. Paul Sextas, 19 ans, a largement limité les dégâts par rapport à son rival Del Toro, vainqueur hier ce matin avant la dernière étape arrivée en haute altitude au plateau de Solaison. Le Français est à 1 minute 05 du Mexicain de 22 ans. On attend de savoir s'il va bien prendre le départ de la dernière étape. Les GG, je vous pose cette question. C'est le premier coup dur pour Sextas, c'est vrai qu'on avait souvent parlé ici du fait que pour l'instant, c'était une carrière sans accroc. Premier coup dur pour Sextas à 3 semaines du Tour. Est-ce un mal pour un bien? Tiens, je vous pose la question. Jérôme, oui ou non?
Plutôt oui.
Marc?
Le mal n'est jamais bon.
Ah, on est sur quelque chose de plus nuancé, Fred?
Oui.
Pascal?
Non, sur la ligne de Marc.
Sur le compte XDGG, vous dites c'est un mal pour un bien à 79% pour l'instant. Vous pensez donc que ça peut lui servir effectivement. Maria Azé, notre envoyée spéciale sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, avec notre consultant Jérôme Coppel également. Bonjour les amis.
Salut Georges.
Salut, bonjour.
Maria, je te pose la question déjà très rapidement. On sait à 10h15 s'il va prendre le départ ou c'est encore flou?
Non, on ne sait pas encore. On n'a pas encore la réponse. Il devait constater un peu les dégâts, entre guillemets, ce matin, voir s'il n'y a pas des nouvelles douleurs qui se sont réveillées avant de prendre une décision sur est-ce qu'il sera au départ ou pas.
Comment Paul est revenu sur sa folle journée d'hier, Maria? Tu l'as rencontré après?
Oui, il était déçu forcément après sa journée, donc notamment marqué par cette chute après 32 km de course. Et surtout, il s'est fait très très peur, le Français.
Je suis arrivé beaucoup trop vite dans le virage. Je pense qu'on était à 70 km/h. J'ai fait un vol plané sur la route. Je me suis râpé 30 mètres, je pense. J'ai glissé. Et voilà, je suis vraiment ramoché.
Au final, Georges, tu l'as dit, Paul Sextas fait une remontée exceptionnelle, bien aidé évidemment par ses coéquipiers, mais après avoir remonté près de 4 minutes de retard, ça c'est compliqué pour le leader de la Décathlon CMA-CGM dans la montée du Grand Colombier. Sextas est désormais à 1,05 d'Isaac Del Toro et forcément très déçu parce qu'il venait pour le maillot jaune.
Aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi dans cette descente. Je m'en veux énormément, forcément. Je suis pas fier de moi. Je suis fier de l'équipe. Ils ont fait un énorme travail. Je perds une 15 aujourd'hui, donc forcément, je suis pas fier de moi. Mais l'équipe peut être fière d'elle parce que, franchement, ce qu'ils ont fait, c'était juste incroyable. Je pense que je vais repartir demain. Je vais me battre jusqu'au bout pour l'équipe.
Voilà, tout est encore possible. Si le jeune coureur est au départ de Beaufort ce matin, c'est qu'il se sent bien parce qu'à 3 semaines du Tour de France et avec la préparation qu'il attend dans les prochaines semaines, on l'imagine mal compromettre son Tour de France pour, entre guillemets, qu'un Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La décision, donc, je le disais, sera prise ce matin en fonction de ses douleurs et de la nuit qu'il a passée. Mais hier, vous l'avez entendu, il était plutôt motivé pour terminer la course. Alors même s'il est au départ, reste à savoir dans quelle forme il sera parce qu'il était bandé de la tête aux pieds hier et il tenait à peine debout à la sortie du podium. Face à un Isaac Del Toro en pleine forme, on a un peu de mal à voir comment comment Paul Sexas pourrait refaire son retard.
Maria, tu nous tiens au courant évidemment dès que tu as une information sur le fait qu'il prendra le départ ou pas de cette dernière étape. Jérôme, est-ce un mal pour un bien? Jérôme Pinot sur Paul Sexas, donc son premier coup dur pour lui, on a 3 semaines du Tour de France.
Bah, c'est un mal pour un bien à partir du moment où il a pas perdu confiance dans les descentes et qu'il a appris de ses erreurs, et cette erreur il l'a avoué dès la ligne franchie, c'est de prendre trop de risques, et c'est pas la première fois qu'il prend des risques pour se replacer dans les descentes. Il a une telle marge que je pense qu'il a pas besoin de ça. On apprend toujours quand on est défait, on apprend toujours de ses erreurs, on apprend toujours de comment on a abordé cette course, et il a que 19 ans, donc il doit apprendre. Et ces moments-là, bah évidemment qu'une fois digéré, et j'espère que ces blessures seront pas plus graves que ce qu'on a vu jusque-là, bah il va l'apprendre et il refera pas deux fois la même chose, parce que c'est comme il fait partie de l'ordre des petits génies, ils apprennent très vite. Donc en général, il va lui
en fait ça nous rappelle qu'il a 19 ans quand même.
Il a que 19 ans, donc il peut faire des erreurs. Et hier, il a une journée complète où on sait qu'il a 19 ans. Son erreur est une erreur de jeunesse. Il vient, il fait tomber les autres aussi. Derrière, dans la chasse, il met. Alors, il est très calme. Et derrière, dans la déclaration, bah, il redevient à 19 ans. Il dit c'est de ma faute. Il utilise des mots un peu grossiers, etc. Et tant mieux, parce que c'est là, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Nous, on se dit. Bah, il n'est pas parfait, il a 19 ans seulement et il a beaucoup de choses encore à apprendre. Maintenant, il apprend tellement vite que si aujourd'hui, il a les capacités de partir, moi je pense, je fais partie de ceux qui disent que s'il part, c'est pour gagner. S'il est, on va voir, faut pas partir.
Attends, tu penses qu'il faudrait pas forcément qu'il prenne le départ?
S'il part, qu'il est capable de gagner la course. Si c'est pour voir et finir la course. C'est pas nécessaire.
Jérôme Coppel, toi t'étais sur la route hier, t'as suivi de ça au plus près. C'est un mal pour un bien.
Bah moi je suis plutôt comme Marc. Il y a jamais de bonnes nouvelles à chuter. Maintenant, si ça devait arriver, bah autant que ça arrive sur le Tara, le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça lui laissera le temps de se repréparer en vue du Tour. Maintenant, c'est pas gage non plus qu'il ne lui arrive rien sur le Tour. Par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme pour dire. Enfin, est-ce qu'il doit prendre le départ? Faut voir dans quel état il est, mais pour faire quoi finalement sur cette dernière étape? Parce que il va pas être sûr au départ qu'il peut gagner. Et pour le classement général, c'est pour aller chercher un top 5, éventuellement un podium. Est-ce que ça vaut la peine de puiser encore dans ses réserves? On sait que quand on prend une pelle comme il a pris, bah c'est jamais facile le lendemain, deux jours après, etc. Donc voilà, ça c'est à l'équipe de peser le pour et le contre et de voir la nuit qu'il a passée. Mais je suis quand même pas confiant pour qu'il fasse un grand numéro aujourd'hui après la gamelle qu'il a eu hier.
Je suis d'accord avec toi, Gégé. C'est surtout qu'il faut qu'on connaisse son programme. Le plus important pour le Paul Sexas, c'est de récupérer vite de ses blessures pour pouvoir effectuer le dernier bloc de travail en altitude pour le Tour. C'est pas cette dernière étape-là.
Marc,
s'il prend le départ, j'imagine que c'est parce que lui dit je peux performer.
Tu as écouté les deux Jérôme. Non, mais c'est vrai que c'est difficile d'évaluer à quel point ça sert ou ça le dessert, ce qui s'est passé hier. Comment tu te positionnes, toi?
Alors, j'ai surtout bien écouté. Alors, j'ai écouté nos deux Jérôme, bien évidemment. Mais j'ai surtout aussi écouté Paul Sexas. Et je trouve que sa communication est un modèle de média training dans l'expression de ce qu'il a fait dans la journée. Je trouve qu'à ce niveau-là, il a fait du très bon travail. Le petit souci que je vois quand même, c'est que sur cette semaine de course, je réfléchissais à ça en venant en voiture tout à l'heure, si on fait une comparaison entre Del Toro et Sexas, on a deux mondes qui s'affrontent. Quand on observe Del Toro, on est dans la gestion, on est dans le développement et dans la mise en place de quelque chose et dans l'expérience et dans le vécu par rapport au prochain Tour de France. Et en parallèle, on voit Paul qui est tout feu tout flamme, qui est enthousiasmant, mais enfin moi, vu de ma fenêtre, hein, peut-être que je fais fausse route, mais je vois quand même une dépense d'énergie extrêmement importante et qu'il faudra davantage maîtriser sur un Tour de France. Et c'est en cela que je pense qu'il est encore en apprentissage. J'espère que ça ne lui sera pas préjudiciable sur ce prochain Tour de France, mais j'ai quand même quelques petites inquiétudes.
Non mais voilà, ça lui permet d'apprendre aussi.
Oui, il apprend, ouais, mais le problème d'apprendre, c'est normal que tout sportif apprenne, surtout à l'âge qu'il a. Le problème pour lui, c'est qu'il est
pollué par l'euphorie.
Non, pas pollué par l'euphorie. Il est lancé ambiance. Dans le grand bain avant d'avoir fini de barboter.
Oui, non mais c'est vrai et ça nous rappelle ce que tu disais un peu Jérôme tout à l'heure.
C'est deux idées qui s'affrontent. On en parlait en antenne. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est aussi très légitime de le penser. Mm. Je pense que de toute façon, il aurait été exposé, qu'on lui en demande beaucoup.
Non, mais c'est pas de fait. Hein.
Regarde, voilà, c'est ça.
Le problème est très simple, c'est qu'il y a 40 ans qu'on attend.
On est tous très impatients. Moi, j'ai longtemps fait partie de ceux qui.
Mais sûr, Del Toro, il a pas la même pression populaire derrière lui. Hein.
Et c'est pas la même pression populaire. Et puis Del Toro, Marc, il est donc pas français. Et en plus, il sait ce qu'il attend en juillet.
Mmh. Oui, il sera là pour faire le tour.
Il va être là pour faire le tour.
Pour être coéquipier de Pogacar.
Donc lui, c'est la course qui. Alors, il y a la chute. Mais même sans la chute, je pense qu'on a vu avant-hier un Del Toro très fort. Parce que Paul a d'autres objectifs. Del Toro, lui, s'il veut gagner une grande course par étape pour le Tour cette année, il a plutôt intérêt de gagner là. Parce que celle en juillet, c'est pas pour lui, il le sait.
Vous n'êtes pas dans l'intégral Tour, vous êtes dans les grandes gueules du sport. Hein. C'est dans trois semaines, le départ du Tour de France à Barcelone.
Après, moi, quand j'ai dit que c'est un mal pour un bien, évidemment pour le long terme. Ouais. Évidemment que c'est jamais bon de tomber, pour le court terme, c'est jamais très bon.
Mais Jérôme... Pascal... En fait, ça doit pas être la première fois qu'il tombe. Donc, j'arrive pas à comprendre le raisonnement que tu avances. Il est tombé, il est meurtri dans sa chair, et vous voulez m'expliquer que c'est un mal pour un bien. Non, c'est pas un mal pour un bien. Hier, à mon avis, hier, oui, il a effectué avec ses coéquipiers une remontée incroyable. Donc, ça situe que son équipe est aussi prête. Mais il le savait déjà. Il savait qu'il avait eu
certainement une bonne équipe. Tu ne sais jamais autant équipe. Que dans la difficulté. C'est dans la difficulté que tu comprends justement de qui t'entoure, de qui t'accompagne, de qui est là avec toi, et de tes capacités propres.
L'équipe a été bonne. Là aussi, l'équipe a été aussi argumentée sur l'adversaire. Moi, il n'y a que des spécialistes du vélo, mis à part Fred, qui aiment quand même.
En descente.
Mais, par exemple... moi j'ai trouvé il tombe mais les équipes elles l'attendent pas, elles foncent, elles veulent le distancer, donc ça veut dire que tout le monde craint Sexas. Mais est-ce qu'on a attendu cette chute pour savoir que c'est un client? Non
mais donc, ils savaient d'avance que c'était un client. Après, ils l'ont pas attendu mais ils ont pas non plus cherché plus que ça à le distancer. En fait,
je voulais poser la question, Marc, parce que moi j'avais l'impression que normalement on attend un peu plus qu'ils n'ont attendu. Voilà, c'est l'impression
que ça parle des Lidl Trek.
J'étais pas sur le terrain directement, mais ils ont pas attendu parce qu'ils avaient pas à attendre non plus. La course était lancée, donc elle est lancée. Après, on est dans la gestion de l'écart par rapport au peloton. Et là, il y a les commissaires qui interviennent, il y a les voitures, les groupes qui sont distancés et lâchés, qui font qu'il y a des barrages défectués par les commissaires. Moi, je pense que son équipe a très bien géré. Ils ont pas paniqué. Ils ont fait ce qu'il fallait avec les moyens qu'ils avaient et ils l'ont bien fait. Après, la situation qu'on a connue hier sur le Dauphiné, si on la transpose sur le Tour de France, ce sera pas la même musique.
Ouais, mais c'est pour ça que ça peut lui servir, pour le coup, d'avoir vu comment ça se passe, pour ne pas reproduire la même chose. Fred, toi, tu dis que c'est plutôt un mal pour un bien. Évidemment, sous réserve qu'ils ne soient pas blessés, qu'il y ait rien de grave.
Évidemment, mais je comprends pas du tout ce qu'on est en train de dire. Là. D'un côté, on est en train de me dire, il manque d'expérience, on va le lancer dans le grand bain, etc., avec le Tour de France. Et d'un seul coup, on se dit, il va apprendre quand même, et c'est important. Donc, je comprends pas. S'il apprend, c'est que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça lui permet d'agrémenter son expérience.
Ça vaut mieux que ça lui arrive là plutôt que sur le Tour de France.
Mais je me répète.
Ce que disait Jérôme Coppel tout à l'heure.
Mais je me répète, mais c'est quand même très important de savoir si tu peux compter sur ton équipe, à quel point tu peux compter sur ton équipe, de savoir à quel point tu peux revenir dans le game quand tu tombes, de savoir aussi que parfois des erreurs de jeunesse peuvent te coûter une position au classement.
Ça, dans tous les sports, en fait.
Dans tous les sports, c'est important.
Parce que jusqu'à maintenant, il a connu que la victoire.
Moi, ce que je comprends pas, c'est que Pascal, qui a connu la défaite assez souvent, devrait savoir que c'est dans la défaite et dans la difficulté qu'on apprend le plus.
Mais cela dit, est-ce qu'on est sûr que la chute de Paul Sexas hier va l'affranchir d'une nouvelle chute dans le Tour de France?
Tu n'as jamais appris.
Vous allez dire qu'il a appris à chuter. Ça va certainement l'affranchir
d'être démesuré dans des descentes. Je ne souhaite pas de mal.
Là, hier, il est tombé dans un temps mort de la course. Il prend des risques dans cette descente, il le dit lui-même, ça va certainement lui apprendre à être plus mesuré et que c'est pas la peine de prendre tous les risques pour gagner 5 places dans une descente à 80 bandes de l'arrivée.
Et donc, il va gagner l'expérience.
Mais oui, on est aussi dans le débat d'apprentissage quand on lui dit, bah oui, mais le tour, c'est grandiose, les médias, ouais, mais s'il y est pas, il va pas apprendre. Il y a la théorie et la pratique. Ah bah là, et là, hier, il a mis en pratique. S'il nous arrive un problème, comment on fait? Bon, bah, hier, ils ont mis en application ce qui peut arriver.
Et maintenant, il sait et il est rassuré par rapport à ça, j'imagine. Il sait que son équipe sera là.
Comme tu dis, Pascal, on le sait que son équipe est forte. Ouais, mais moi j'ai aussi, et Marc peut le confirmer, on a pu aussi faire plein de stages de préparation où nous, quand on est entre nous, oh, les mecs ils marchent. Puis quand ils arrivent sur le terrain, c'est plus la même.
Comment ils font?
Au moins là, et là au moins ils savent que ça va.
On continue d'en parler dans un instant. On va continuer de parler de Paul Seixas avec vous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marc Madiot, Jérôme Pinault, Fred Weiss, Pascal Duprat et Jérôme Coppel avec nous depuis le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. On va parler de Wemby qui ne sera pas champion NBA, hein, perdu cette nuit face au Knicks à la finale. On va en parler dans un instant avec toi, Fred. Tu vas prendre le brassard de capitaine. On sera à San Antonio également où malheureusement la défaite a eu lieu la nuit dernière. On continue de parler de Paul Seixas. On attend de savoir s'il sera bien au départ de la dernière étape. Lui qui a vécu son premier coup dur hier à 3 semaines du Tour. Est-ce que c'est un mal pour un bien? On débat de ça depuis tout à l'heure. Jérôme Coppel, toi tu es sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors hier en plus il a une journée difficile, il est élu super combatif et donc il doit faire le protocole et tout ça, hein. Donc ça a été une journée un petit peu longue. Jérôme, qu'est-ce que toi tu constates sur l'environnement qu'il y a autour de lui aussi, parce que là c'est une course en France, on le disait, il y a de l'attente, il y a le public qui le pousse, à l'arrivée il dit j'ai voulu le faire aussi pour les gens qui comptent sur moi, pour le public. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as découvert de l'environnement autour de Seixas là sur la course?
Ben, découvert pas grand chose, découvert que c'est une superstar, mais ça on le savait déjà. Maintenant l'engouement qui suscite pour le public, c'est la folie, quoi. Je veux dire, les gens en ont que pour Paul Seixas, c'est vraiment incroyable. Et qu'il soit devant ou même quand il était lâché, quand il était en difficulté après sa chute, voilà, tout le monde le soutenait. Et c'est vraiment la star du cyclisme français. Et je crois qu'à 19 ans, alors qu'il débute sa carrière, je me demande s'il a pas déjà plus de popularité qu'a pu l'avoir Julien Alaphilippe par exemple.
Ah ouais.
Franchement c'est la folie. Alors peut-être parce que c'est comme l'a dit Marc tout à l'heure, on attend un potentiel vainqueur du Tour depuis 40 ans, donc peut-être il y a encore plus d'impact sur le grand public, mais il a encore pas du tout les résultats. Alors ils sont chacun dans leur catégorie, mais il a pas encore les résultats qu'a pu avoir un Julien Alaphilippe par exemple. Mais au niveau popularité, j'ai l'impression qu'il prend déjà une envergure. Il est déjà en tout cas au niveau de Julien Alaphilippe. J'ai l'impression c'est dingue. Franchement, c'est la folie. Bah, j'ose pas imaginer ce qui va se passer.
On vit la même chose, Jérôme, au quotidien quand on croise les gens. Et il y a les passionnés de vélo et ceux qui connaissent rien. Mais ceux qui connaissent rien, aujourd'hui, nous disent on a un jeune français là qui va peut-être gagner le Tour.
Bien sûr.
Ça y est, c'est parti.
Bien sûr.
Il faut savoir faire. Pour le coup, tu parlais de ses capacités devant les médias. Maintenant, Marc, mais c'est vrai, lui est conscient de ce qu'il y a autour de lui. Il en parle et ça fait partie de ses carburants. Il faut savoir le gérer, ça aussi. Toi, t'as dû gérer avec Thibaut Pinot, mais qui avait peut-être une.
On n'était pas au même niveau.
Voilà, on n'était pas au même niveau. Et puis et même, il avait un détachement, lui, peut-être par rapport à ça, qui était différent, pas la même personnalité. Mais là, on est sur le Dauphiné. Ce que nous décrit Jérôme est déjà quand même assez impressionnant sur le Tour de France.
x10.
Non, mais même sur les grands cols et tout ça.
Hein. Oui, non, mais ça va être x10. Donc,
et la nervosité aussi.
Pour lui, y avoir un désavantage par rapport à la concurrence, c'est qu'il, lui, va dépenser plus d'énergie à gérer tout l'environnement du Tour. Ça va être beaucoup plus important pour lui et son équipe, parce qu'il est français, parce qu'on attend depuis 40 ans. Ça va forcément être beaucoup plus compliqué que pour Pogacar et les autres qui vont être
tranquilles. Il aura un amour qu'on lui rendra aussi, qui lui permettra de se transcender. C'est un carburant incroyable, ça.
C'est à la fois ça un carburant et aussi une charge. Hmm. C'est les deux.
Mais moi, je pense que sur le Tour, ça peut être très porteur. Et je pense que ça peut lui glisser dessus, parce que c'est une telle... tu peux découvrir et la première année tu vois tout et c'est génial et mais par contre c'est vrai que sur cette approche là moi j'ai été surpris, je sais pas Jérôme si je me trompe, mais le monde, déjà il y avait beaucoup de monde hier, j'ai trouvé dans l'étape, et il y a beaucoup de supporters Paul Seixas, c'était là déjà
pour le soutenir quand ça allait pas bien
sur un ancien Dauphiné, parce qu'on est un peu réac aussi, mais sur un Tara c'est rare quand même.
Jérôme Coppel,
Ouais, bah c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que j'ai rarement vu autant de monde sur le Dauphiné. Des fois, bah aujourd'hui par exemple, typiquement l'arrivée à Solaison sera la même qu'au Tour de France. Ouais. Mais d'habitude, vous faites le Dauphiné, il y a personne, il y a pas un rat. Vous arrivez au mois de juillet, c'est plein à craquer, c'est noir de monde. Et hier, c'est la première réflexion que je me suis fait dans le Grand Colombier en me disant, purée la vache, le monde qu'il y a pour un Dauphiné.
Ah oui.
Et on revoyait un peu déjà des images du Tour où ça s'écartait un petit peu au dernier moment devant les coureurs, etc. Ça, il y a pas avant. Et là, Paul Sexas, en plus, il est chez lui, il est plus ou moins sur ses terres, et il a apporté un monde fou. Et aujourd'hui, je suis curieux de voir le monde qu'il y aura justement dans la dernière ascension. Mais il y a déjà le phénomène Paul Sexas qui attire des spectateurs, et comme le disait Jérôme, pas forcément que des spécialistes en plus du vélo, pas que des puristes. Donc ça, c'est l'impact qu'il va avoir. Et il a que 19 ans, il est juste au début de sa carrière, donc je n'ose pas imaginer ce qui va se passer dans quelques années.
Tiens, Maria Azé qui commente ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes nous rejoint. Maria, on a les infos, il va prendre le départ.
Oui, selon les informations qu'on a en interne, il devrait prendre le départ de cette dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, selon ce qu'on dit, pas forcément à 100%. Donc on verra s'il vient pour jouer la victoire d'étape. Lui forcément viendra pour jouer la victoire d'étape, mais faut voir dans quel état entre guillemets il sera pour cette étape et cette arrivée au plateau de Solaison. Évidemment, deux cols hors catégorie aujourd'hui, plus de 3800 mètres de dénivelé positif. Ça va être une sacrée étape.
Là, j'ai une vraie question pour toi, Jérôme. Pas pour les deux, Jérôme. Non, parce que ouais, c'était des fausses questions. Mais là, c'est une vraie question. Je me dis, c'est quoi l'intérêt d'y aller dans ce cas de figure là en fait?
Alors,
l'intérêt?
Je suis d'accord avec toi, Fred.
Il y en a pas si vraiment il est diminué.
Bah oui, c'est ce qu'il a annoncé apparemment.
S'il y va, pour moi, c'est qu'il se. Enfin, la question qu'on a dû lui poser ce matin, j'espère, c'est est-ce que tu te sens capable de performer? C'est pas de suivre le peloton et d'être lâché dans le premier col. Mais ça, tu peux pas trop le savoir.
Bah, c'est difficile, ouais, oui, bien
donc
sûr.
Il a dû faire un peu de home trainer pour voir si ça roule, tout a tourné bien. Ils ont pris tous les contrôles nécessaires pour voir si le corps avait récupéré.
Après, il y a peut-être la volonté de pas vouloir décevoir. Hein. Il y a son équipe qui l'a aidé.
Moi, j'ai une vraie question, moi, pour nos spécialistes.
Bah, dis donc.
Et,
c'est l'heure de vérité.
Il a des blessures. Le vernis est parti à peu près partout. Ouais. Combien de temps on met pour récupérer de blessures telles que celle-ci?
Pour récupérer sa peau quand on n'est pas un reptile, mais juste un être humain.
Ça doit tirer.
La problématique, c'est pour le vernis, c'est d'abord la récup, le sommeil, tout ce qui est. D'abord, penser ses plaies, c'est ça. Mais c'est ce qui se passe, passer en dessous. La peau, ça va durer 8 à 10 jours et c'est fini, on oublie. Ah ouais. Maintenant, il y a les hématomes, pouvoir renforcer.
C'est dans 3 semaines le tour.
Et c'est vrai que. Non, mais le tour, ça va aller, sauf qu'il y a un bloc de travail.
Mais tu t'entraînes encore pas bien, fois, justement.
Voilà, c'est ça. Il y a un bloc de travail à mettre en place. Mais si c'est que des dermabrasions et que dans 8 jours, on n'en parle plus. Pas de problème. Enfin, même dans 4 jours, il refait des efforts à haute intensité. C'est pas.
Mais là, ce matin, quand tu montes, vous êtes tous tombés. Quand tu montes et que t'es râpé, vous savez quoi, des doubles peaux, mais ça doit être terrible la sensation.
Là, ça
sur
brûle,
le vélo,
on a l'habitude. Hein.
Oui, ben de toute façon, tu te lèves, t'as l'impression que tu t'es fait rouler dessus par un camion. Tu vas voir le médecin qui va te mettre de la double peau, etc. Donc oui, t'es pas bien. Et pour revenir à ce que disait Jérôme, c'est quand tu tombes, le corps déjà il lutte pour guérir, lui, pour cicatriser, pour refaire la peau justement. Donc c'est de l'énergie qui est pas mise pour faire ton effort que t'as à faire sur ton vélo. Donc forcément, qui sera pas à 100%. Après, il peut pas, tant qu'il a pas pris le départ de la course, il peut pas vraiment savoir comment il est, parce que peut-être qu'un Paul Sexas pas à 100%, suivant la physionomie de course, suivant comment ça se passe, il peut peut-être quand même gagner l'étape. C'est peut-être ce qu'il se dit. C'est peut-être pour ça qu'il va prendre le départ aujourd'hui.
Ah,
et il fera le point. Je veux dire, l'étape aujourd'hui, c'est assez simple. Hein. Ils partent au pied d'un col de 7 km à plus de 10% de moyenne. Donc, il va vite être fixé sur les jambes qu'il a aujourd'hui. Hein. S'il est pas bien dès le départ, il faut pas qu'il force. Voilà, il se gare et il rentre dans la voiture et il essaye d'accélérer la récup plus vite. Quoi.
Marc, le mot de la fin.
On est dans un sport où on roule aussi avec des blessures.
Bah oui.
Ça fait partie du métier de coureur cycliste que de rouler avec des blessures suite à une chute.
C'est
ou
tous
autre.
Les sports professionnels.
Ouais. Donc, à partir de là, s'il est en état de rouler, s'il pense qu'il peut rouler, il roule, même s'il ne sera pas à son meilleur niveau, mais il va rouler parce que ça fait partie de son métier.
Bon bah écoutez, on est ravis déjà de savoir qu'il va prendre le départ. Hein. Ça veut dire, en tout cas, ça veut dire que c'est pas grave. Au moins, c'est ça l'information.
Ça, on le savait hier. Et hier soir,
on a la confirmation définitive. Tiens, le premier coup dur pour Sexa, c'est-il un mal pour un bien? On a trois semaines du tour. Résultat du sondage sur le ring des grandes gueules du sport. Vous dites oui à 77%. Évidemment, j'ai plein de messages sur WhatsApp de nos auditeurs et auditrices qui croisent les doigts pour lui. Hein. Là, pour le coup, on est quand même sur une côte d'amour déjà autour de coureur français important avant la grande boucle. On n'est pas en juillet, non, effectivement.
Mais
on
s'y croit.
J'ai presque cru qu'on était en juillet, effectivement, avec Jérôme Coppel. Jérôme,
c'est la première fois depuis très longtemps qu'on s'inquiète pour la santé d'un de nos coureurs en mois de juin. Hein.
Je suis inquiet pour vous, moi, à l'époque, les gars.
Je suis tombé au Dauphiné, tu t'es pas inquiété.
Jérôme Coppel, on se retrouve tout après-midi sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec Maria Azé. Merci beaucoup. Et donc, on va tout de suite prendre la direction des États-Unis. Parce que quand même, Fred n'a pas fait nuit blanche pour rien. On va parler de la NBA. Et Victor Wembanyama ne sera pas champion NBA cette année. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Paul Sexas va prendre le départ de la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'information de la matinée, évidemment, sur RMC. On suivra cette étape arrivée au plateau de Solaison. Hein. C'est une répétition aussi, parce qu'on arrivera là-bas sur le Tour de France. C'est pour ça qu'on a envoyé Jérôme Coppel. Hein. C'est pour faire des repérages.
Il l'a monté deux fois. Exactement.
Ah non, c'est bon, on va faire des repérages, juste pour voir s'il y a des restos pas loin. Ravitaillement. Ah quoi, il y a une course. Mais quelle histoire. C'est n'importe quoi. Allez, les amis, on est avec Marc Madieu, avec Jérôme Pinault, avec Fred Weiss et Pascal Duprat. La NBA, Fred, pas de titre pour Victor Wembanyama cette année avec les Spurs. Les Knicks de New York ont encore renversé San Antonio 94-90 dans le Texas en plus cette nuit pour s'adjuger. Les Knicks, leur premier titre depuis 53 ans.
Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
En version originale, fan des Knicks, ceci n'est pas un rêve. L'attente est terminée après 53 ans. On pouvait aller pleurer. Et effectivement, on a vu des scènes de dingue à Manhattan. Il y a un petit peu partout des fans des Knicks. Hein. 45 points de Jalen Brunson, 19 points, 14 rebonds pour Wemby. Ça n'aura pas suffi. L'envoyé spécial de RMC Sport, Félix Gabory, a vécu ce match 5 dans la salle à San Antonio. Félix, raconte-nous l'ambiance et les réactions après la rencontre.
Et bien, avant même d'en connaître le dénouement, on a tout de suite vu que cette soirée allait être très spéciale avec le raz-de-marée de supporters des Knicks qui étaient présent à San Antonio. On va être clair, au niveau de l'ambiance, c'était du 50-50 tout au long de la rencontre, sauf que ça s'est terminé comme ça. Ce que vous entendez, ce sont bien les supporters de New York qui ont fait trembler les murs de la salle des Spurs quand le buzzer a retenti. 53 ans que cette franchise mythique attendait de gagner un nouveau titre. Les célébrations ont continué pendant longtemps après la fin du match. On a même eu une scène assez improbable en conférence de presse où le coach des Spurs, Mitch Johnson, avait du mal à entendre les questions des journalistes à cause du bruit qu'il y avait encore dans la salle lors de la remise du trophée. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Victor Wembanyama de se présenter face aux médias. Le visage fermé, il a été très cash sur sa performance.
J'étais pas prêt à gagner une bague, c'est évident. Je pense qu'en termes de volonté de bien faire, d'intensité, d'effort, on était à un bon niveau, j'étais à un bon niveau. Mais l'expérience, c'est des erreurs. On manque pas de talent, on manque pas de capacité, c'est vrai. On fait trop d'erreurs, je fais trop d'erreurs.
Alors que les Spurs ont encore été devant au score pendant toute la rencontre avant de tout gâcher en fin de match, le Français assure avoir vu ce qui lui manquait pour être au niveau de Jalen Brunson, le meneur des Knicks, auteur de 45 points cette nuit.
Tu travailles encore plus dur évidemment, et surtout garder l'esprit frais, garder un contrôle sur le jeu tout le temps en fait. C'est ça qui est marquant chez Jalen Brunson par exemple. Et ça part pas de mauvaise intention, mais il y a trop de moments où je suis passif, trop de moments où j'ai pas le contrôle sur le jeu que j'aimerais avoir, ça nous coûte.
Voilà, c'est comme ça que s'achève la troisième saison de Wemby en NBA, avec des regrets mais surtout beaucoup de leçons pour l'avenir.
Merci beaucoup Félix. Ben voilà, on y était hein, malheureusement dans cette nuit terrible. Moi je suis fasciné par les mots de Victor Wembanyama et cette analyse sur lui-même. Ouais, exactement, juste après ce match. Fred, alors je dis tu prends le brassard de capitaine pour eh bien revenir sur cette nuit. Il en parle Wemby, l'expérience. Ça a joué.
L'expérience, on l'a banalisé aussi parce qu'il a avancé tellement rapidement dans ses playoffs, il a tellement été capable de gagner une finale de conférence, il a tellement été capable de se transcender dans les moments chauds, son équipe d'ailleurs est également, qu'on a banalisé le fait que c'était la première fois que cette équipe des Spurs arrivait en play-off. On a banalisé le fait que leur joueur majeur était pour la première fois dans des play-offs. On a banalisé le fait que le coach était pour la première fois un coach d'une équipe de play-offs. Et on s'est retrouvé finalement sur une finale où on a tous, et moi le premier, considéré que cette équipe des Spurs était tout favorite. Parce que on avait vu des choses extraordinaires, parce qu'ils avaient battu le champion en titre. Alors oui, je me répète à chaque fois, mais c'est important de le dire. Où il manquait quand même deux joueurs très importants, Jalen Williams et Ajay Mitchell. Mais on a commencé à se dire que tout était possible. On a commencé à se dire que avec l'alien, l'expérience ne comptait pas, qu'ils étaient en train de l'acquérir au fur et à mesure de l'avancée des playoffs.
La normale était devenue la normalité.
Exactement. Et on s'est rendu compte que cette équipe de New York qui était passée par il y a 4 ans les finales de conférence, il y a 3 ans les finales de conférence, l'année dernière ils étaient en finale de conférence aussi, ils ont progressé petit à petit, ils se sont retrouvés à avoir une équipe qui chaque année performait de plus en plus et en fait connaissait le chemin pour gagner, avait un joueur comme Brunson capable de les amener vers la victoire, mais surtout un collectif capable de trouver des solutions à tout. En fait, à chaque fois, on s'est rendu compte aussi que ces jeunes joueurs des Spurs commençaient très bien les matchs. On s'est rendu compte que sur les premiers cartons, ils n'ont pas perdu un premier carton dans ces 5 matchs. Et on s'est rendu compte aussi que, comme un bon rouleau compresseur, les Knicks prenaient le temps. Aller doucement, avancer, continuer à avancer, et dans les moments clutch, c'est ce qu'on appelle en basket, les fins de match, les moments difficiles, les shoots importants, les shoots qui font passer une équipe de gagnante à perdante, les Knicks étaient bien meilleurs. Et les Knicks avaient toujours la solution. Les Knicks étaient d'une résilience incroyable. Les Knicks avaient ce sang-froid incroyable qui leur permettait de s'imposer dans ces matchs. Il faut se rendre compte que sur ces 5 matchs, en moyenne, il y a 4 points d'écart. En moyenne! Ce qui est juste incroyable. Et si on regarde les temps où les Spurs sont devant, c'est colossal. C'est bien plus que 50% du temps. Sauf qu'à la fin, on se retrouve sur un 4-1.
Ouais, parce que la différence, elle se fait là, en fait, sur l'expérience.
De la gestion d'une finale. C'est-à-dire que c'est bien de commencer très fort, mais il faut savoir ménager sa monture. Il faut savoir arriver à la fin en forme et mettre les shoots importants.
Marc.
ça m'amène à une comparaison. On vient de parler longuement de Texas.
Exactement.
Et on peut changer de sport, on retrouve les mêmes ingrédients et les mêmes moments délicats et importants. Et l'expérience est primordiale.
Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'on est en train de s'habituer à avoir des surdoués très jeunes maintenant qu'on en oublie parfois.
Parce qu'ils sont tellement forts que le
paranormal est devenu la norme.
Georges, parce qu'ils sont tellement forts, parce qu'ils nous impressionnent tellement. Il faut se rendre compte quand même que pendant 20 minutes, New York ne paie pas un panier à l'intérieur. Ouais. C'est-à-dire que Victor Wembanyama se comporte juste comme le meilleur défenseur de l'histoire de ce sport. Mais au final,
moi, ça m'amène une autre comparaison.
C'est incroyable.
Pascal.
Ça m'amène une autre comparaison. Donc, il est exceptionnel, Wemby. Il est comparable à Sexas aussi dans cette propension à être vachement bien cérébré. Et je fais la comparaison avec Mbappé. En fait, Wemby, t'es obligé de l'aimer, quoi. Parce qu'à la fin du match, il dit, ouais, il faut que je progresse là, dans ce domaine, j'ai pas été assez concentré. Il se compare avec le meilleur joueur d'en face. Il dit que pour aller vers le haut niveau, il faut qu'il prenne exemple sur ça et ça. Il est d'une humilité déconcertante alors que c'est déjà le meilleur joueur de basket du monde, presque. Donc c'est impressionnant.
Il se remet en question. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est programmé pour gagner. Il n'est pas programmé pour être le meilleur. Être le meilleur, quelque part, il le sait depuis des années. Mais lui, il est tellement programmé pour gagner qu'il se remettra en question à chaque fois tant qu'il n'aura pas gagné. Après, il y a plein de sujets sur l'équipe des
Spurs. La conf de presse, juste après le match, il faut situer.
Bien sûr.
C'est impressionnant.
Il est extrêmement froid et il est comme une lame. C'est-à-dire qu'il va vraiment dire de façon chirurgicale ce qui a fonctionné. Il est transparent.
Ouais, mais là c'est après des finales NBA quand même. C'est pas après un match de play-off perdu ou un match de saison régulière.
Quelques minutes après ça, en vestiaire où il est complètement effondré.
Parce que là, tout NBA qu'il est, on ne sait pas quand est-ce qu'il retournera en finale NBA. Hein. C'est pas genre parce que je suis le meilleur joueur du monde, je vais. Exactement.
Non, aller en finale NBA, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, il ne sait pas quand est-ce qu'il retournera. Mais lui, il considère qu'il fait pas.
Petite question, les plus grands, ils y vont combien de fois en moyenne sur une carrière?
Ça dépend. Après, LeBron est allé très souvent. Michael Jordan, il est allé 6 fois. Il a gagné six fois.
Ouais.
Donc c'est très. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les temps de passage, il y en a avant sur Michael Jordan. C'est-à-dire que Michael Jordan n'était pas en finale NBA aussitôt.
À son âge.
Au même âge. Par contre, lui, quand il est allé en finale, il était plus construit et il a gagné.
Jérôme.
Mais moi, je rejoins les copains sur le fait que c'est le côté jeune et qu'on pas le temps, ça avance vite, mais que l'expérience joue malgré tout. Comme tu le dis, Fred, à quelques détails, notre conclusion n'est pas la même.
Ah, mais évidemment.
4 points de moyenne sur l'ensemble des finales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à 4 points près, il gagne et on dit bah, la jeunesse a effacé l'expérience. Alors ça joue à peu de choses. Alors, effectivement,
la cruauté du haut niveau.
Il y a quelques petits détails. Mais au final, tu te dis que tout peut arriver et que ce garçon-là est bel et bien un phénomène. C'était les Français se sont levés pour aller voir ce match. Il porte avec lui, ça y est, il nous a emmenés en NBA. On regarde de nouveau, je te parle des noms spécialistes,
oui, bien sûr,
la NBA, parce que Wemby, bah, c'est Sexas, c'est Mbappé quand il est arrivé. C'est tous ces jeunes-là qui te portent, qui t'emmènent. Tu as envie de voir ça. Et surtout, c'est un jeune qui te parle. Aujourd'hui, la jeunesse parle comme ça. La jeunesse te parle direct. Elle a des mots francs, elle a des mots directs. Et j'aurais adoré, ça viendra peut-être, que sur tous les réseaux sociaux qui nous entourent, on fasse un montage avec déclaration de Paul Sexas en haut du Grand Colombier et déclaration de Wemby. Ils parlent de la même chose.
Non, mais c'est l'autocritique, c'est mêmes, ça, cette capacité.
Et tout de suite, ils sont avec cette froideur, comme tu le dis, Pascal, c'est juste après un événement. Alors là, c'est Philanémi, évidemment, mais Paul, on l'attendait aussi. Et c'est ça qui fait finalement que ces gens soient déjà physiquement programmé, exceptionnellement programmé.
Ça fait du bien, ça fait du bien au sport.
Et ça fait beaucoup de bien.
Martial sur WhatsApp me dit, mais les Knicks jouent leur première finale aussi. Oui, mais les Knicks viennent dans un processus de plusieurs années.
C'est ce que j'ai expliqué. Ils sont passés par les demi-finales de conférence, ils sont passés par les finales de conférence, et là, ils étaient en finale NBA.
Bernard dit, Wemby a perdu sa première finale. Est-ce que c'est un mal pour un bien pour en revenir?
Très bonne question. Je me suis posé cette question et je pense que c'est un mal pour un bien parce que justement, il a compris ce qu'il fallait faire mieux. Il a compris que justement, sur les moments clés, il fallait être un peu plus réfléchi et justement moins se fier à juste ses capacités.
Il va devenir injouable.
C'est une machine en fait. Il apprend à chaque fois. Donc pour moi, mais même c'est hyper intéressant,
Fred,
finalement.
Sur cette série, sur la finale, il a aussi eu un moment inédit pour lui. Il est devenu le méchant.
Oui.
Il est devenu le méchant des Knicks. Souvenez-vous, il y a eu ces images, on lui a balancé des trucs en retour à l'hôtel à New York. Non, mais ça forge aussi un champion, l'hostilité. Enfin voilà, LeBron James s'est passé par là, notamment Michael Jordan était détesté aussi par certains.
Mais on parlait d'ego tout à l'heure, ça rentre dans l'ego pour moi. C'est important justement d'être le joueur à battre de l'autre côté, le joueur qui est un petit peu dur, le joueur qui est un peu dirty. Et moi, j'aime bien pour lui. J'aime bien, pardon, translation direct. C'est important pour son image, parce qu'il avait une image tellement lisse que de temps en temps, un petit peu. Alors, je trouve que parfois, il en a un petit peu exagéré, clairement. Mais c'est important quand même.
Ce qu'il faut signaler surtout, c'est que les grands spécialistes, dont Fred, cette équipe n'était pas du tout programmée pour aller.
Oui, c'est ça, il faut le rappeler.
Même pas les finales de conférence.
On était sur un processus.
Wemby va être l'un des meilleurs de la ligue, mais l'équipe n'est pas prête. Mais une fois
tout au long de la saison, Fred, il disait quand même que l'équipe progressait vite.
Mais j'imaginais pas qu'il serait en finale NBA. Alors, il y a des circonstances, encore une fois, je me répète, il y a eu des blessés sur les meilleurs, mais dans l'absolu, c'est quand même extraordinaire, s'il vous plaît.
Fred, merci beaucoup. On se retrouve en octobre prochain pour le début de la NBA. Non, tu vas rester avec nous.
Merci beaucoup. Sympa.
Bonne nuit. Non, tu vas rester avec nous parce que dans quelques instants, on va reparler de la Coupe du Monde de foot, évidemment. J-2 avant France-Sénégal, l'entrée en lice de l'équipe de France. Est-ce que les Bleus ont absolument besoin d'un grand Dembélé? Absolument besoin. Mais surtout parce qu'on va parler tous ensemble dans le vestiaire de comment on vit en communauté pendant un mois. Parce que Kylian Mbappé a dit parfois, ça peut m'arriver d'être socialement pas très disponible. Vous êtes tous passés par là et c'est vrai que c'est des moments clés. On en parlait déjà tout à l'heure dans la performance. On revient dans un instant sur RMC avec vous au 32-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.